Radio Okapi. Le journal en français, Jacques-Yves Molima.
Chilatembo, village et lieu du drame de l'élimination de Patrice Emery Lumumba au Katanga, a accueilli ce dimanche la relique de l'illustre disparu. Moment d'intense émotion et d'interpellation. Son fils François Lumumba a appelé les jeunes à pérenniser les idées de son père, tout en appelant à l'unité du pays. Pendant ces temps, la société civile du Nord Kivu alerte le gouvernement quant à la situation sécuritaire qui prévaut dans le territoire de Beni. Pour son vice-président Edgar Matesso, que le gouvernement se penche sur la situation de 1-23 à Rutshuru, n'oublie pas le territoire de Beni qui fait face aux rebelles ADF. Enfin, il y a 10 ans, la réserve de faune de Poulou a été attaquée par des miliciens Maï Maï du feu, chef milicien Morgan, où 15 Okapi ont été massacrés. C'était le 24 juin 2012. Depuis ce jour, cette espèce rare qu'on ne trouve qu'en RDC n'est plus capturée. Quel est l'état des lieux de ce patrimoine? Pour en parler, nous recevons dans cette édition du journal Berce Sanfoissa, responsable de cette réserve. Et voilà tout pour le sommaire. Bonjour mesdames, bonjour mademoiselles, bonjour messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. La relique de Patrice Emery Lumumba est arrivée ce dimanche sur les lieux du drame au village Chilantembo, situé à une cinquantaine de kilomètres de Lubumbashi. À cette occasion, François Lumumba, le fils du héros national, a interpellé les jeunes pour la pérennisation des idées de l'illustre disparu, tout en appelant à l'unité pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale. Jean Gando pour les détails.
C'est aux environs des 17h heure locale que le cercueil transportant la relique de Lumumba est arrivé à Chilantembo, sous le rythme du groupe folklorique Anamongo. Accueilli par le premier ministre et les membres de famille, le cercueil a été déposé dans le mausolée. Prenant la parole, le gouverneur du Haut-Katanga a indiqué que sa province aurait aimé abriter à jamais le tout premier ministre, symbole de l'unité nationale. Pour Jacques Kiaboula, Lumumba est un esprit, une idéologie. Le premier ministre Sama Lukonde a pour sa part indiqué qu'en ce jour, le peuple congolais est en train de réécrire son histoire, faisant de Chilantembo un lieu de pèlerinage. Quant à François Lumumba, fils de l'illustre disparu, Lumumba est mort trop jeune, ce qui l'a empêché de terminer son programme sur le plan social et surtout sur le plan de l'unité nationale. Voilà pourquoi il a lancé un appel aux jeunes de se liguer pour défendre la nation face à l'agression dont elle est victime dans sa partie est. Le professeur Antoine Chitungu de l'université de Lubumbashi pense que l'événement de ce jour est capital à plus d'un titre.
Aujourd'hui, ceux qu'il avait éliminés en croyant que ce n'était qu'un épisode éphémère de l'histoire du Congo, on n'en parle plus. Tandis que Patrice Lumumba, lui, nous habite et il habite le panthéon de l'universel.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Autre nouvelle, nous l'avons dit au sommaire. La société civile du Nord Kivu appelle le gouvernement à ne pas oublier la situation sécuritaire qui prévaut dans le territoire de Beni. Selon le premier vice-président de cette structure citoyenne, actuellement tous les efforts seraient concentrés dans les territoires de Rutshuru à cause de la résurgence de la rébellion du M23 alors que les ADF multiplient les attaques contre les civils à Beni. D'où son appel au gouvernement à concentrer également ses actions dans cette région. On écoute Edgar Matesso au micro de Martial Papimukeba.
Tout le monde tourne les regards vers Rutshuru alors que en territoire de Beni, il y a des menaces graves sur la population. À l'intervalle de 10 jours, 3 attaques sur la commune rurale d'Oicha, alors qu'on vient de faire plus ou moins 2 ans sans que l'on assiste à ce genre de situation. La situation sécuritaire était déjà presque maîtrisée à Oicha. À cela, il faut ajouter la récente attaque de Mamove, la situation qu'on a eu à observer à Kokola. Il y a eu aussi l'embuscade du côté de Kilia dans le Rwenzori. Et comme pour dire que l'ADF continue à renforcer ces actions, ces attaques contre les civils en territoire de Beni, les gens continuent à être tués dans cette région. Nous voudrions que le gouvernement concentre son regard de la même manière qu'il le fait à Rutshuru, mais que ce regard reste permanent à Beni.
Et puis ici à Kinshasa, au cours du Conseil des ministres de ce week-end, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a rappelé que la RDC fait face à une agression perpétrée par un groupe terroriste d'inspiration étrangère avec l'appui du Rwanda, soulignant que cette situation menace encore une fois de retarder le décollage tant attendu du pays et handicape fort malheureusement le principe d'intégration des peuples tant vanté par l'organisation continentale, l'Union africaine. C'est ce qu'a rapporté la ministre ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Catherine Katungufura, qui a fait le compte-rendu du dit conseil. Félix Antoine Tshisekedi a réitéré au peuple congolais son appel de ne pas céder au discours de la haine et à la xénophobie pour ne pas jouer le jeu de l'ennemi. On écoute à cet effet un extrait du compte-rendu lu par Catherine Katungufura dans cet extrait proposé par Alain Irung.
Le chef de l'État a réitéré sa reconnaissance à l'endroit du peuple congolais qui s'est mobilisé spontanément à travers de marches pacifiques et des initiatives de soutien à nos vaillantes forces de défense et de sécurité. Par ailleurs, le président de la République a rappelé avec insistance l'obligation de ne pas sombrer à la tentation de l'ennemi en évitant de tout discours, tout acte, toute attitude qui friserait la haine, la discrimination, la stigmatisation et la xénophobie, qui céderait le pas à l'ennemi qui a toujours joué à la victimisation pour en faire un fonds de commerce rentable auprès des instances décisionnelles internationales. Le peuple congolais doit continuer à prouver à la face du monde qu'il demeure un peuple pluriel, accueillant, pacifique et hospitalier. Car la République démocratique du Congo est et restera une nation, un vivier de cohabitation pacifique entre communautés, dans ce vivre ensemble richement divers qui a toujours fait sa force.
Le chef de l'État a aussi chargé la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux à mener des enquêtes approfondies sur tous les prétendus actes de violence communautaire en rapport avec la guerre de l'Est du pays. Selon la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, le président Félix-Antoine Tshisekedi a aussi instruit le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Décentralisation et Affaires Coutumières à veiller à la sécurisation physique de toutes les communautés qui ont choisi la RDC comme deuxième patrie. Parlons de cette déclaration de l'ASBL Igisenge en rapport avec la situation sécuritaire dans l'est du pays. L'ASBL, c'est l'association qui regroupe les Hutus du Kivu. Face à la presse ce vendredi 24 juin, elle a condamné sans équivoque l'agression de la RDC par le M23. Par ailleurs, Ezekiel Sebouliri Bizimana, président de cette structure, dénonce des actes de violence, de haine et de stigmatisation à l'égard d'une quelconque catégorie de la population fondée sur son appartenance tribale. Ezekiel Sebouliri Bizimana le dit à Paul Matindo.
L'ASBL Igisenge tient à réaffirmer que la protection des populations congolaises, en ce compris les Hutus, relève de la responsabilité du gouvernement congolais et non des dirigeants des États tiers. Il convient cependant de condamner le dérapage de certains compatriotes qui n'ont pas hésité à verser dans des discours de haine, de stigmatisation, d'incitation à la violence et à la destruction méchante des biens. En conséquence, l'ASBL Igisenge condamne sans équivoque l'agression de notre pays par les M23 soutenus par le Rwanda, apporte son soutien total et indéfectible au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, demande au gouvernement de la République de ne ménager aucun effort dans la recherche de la paix et la sauvegarde de l'intégrité de notre territoire et lui rassure de son soutien dans la recherche des solutions susceptibles de ramener rapidement la paix à l'est de notre pays.
Au Nord Kivu, le concours national pour la formation des officiers de FRDC, lancé samedi par le commandant du 34e région militaire, s'est clôturé hier dimanche à Goma. Au total, 494 candidats, dont 11 filles, ont participé à ces deux sessions académiques militaires, ordinaires et spéciales. Le spécialiste des écoles de formation militaire venu de Kinshasa déplore tout de même le petit nombre de candidatures féminines, alors que le recrutement visait plus les filles afin d'obtenir un équilibre entre les deux sexes au sein de l'armée congolaise. Le colonel Chika Itaki la Prince l'a dit au micro de Bernardine Diambo.
Vous savez, Nord Kivu, c'est une zone opérationnelle. Je ne sais pas si les gens ont douté à cause de la guerre. Je pense que les filles ont peur, je ne sais pas. Mais nous avons dit dès le départ que ces examens concernent beaucoup plus les filles parce que, vous savez, avec les gens de la MONUSCO qui voulaient qu'il y ait égalité et que le nombre de femmes était à un niveau très bas. Il fallait hausser les nombres, quoi. Mais voilà, nous avons crié haut et fort. Malheureusement, nous n'avons recruté que 11 qui ont passé le concours. Celui qui va réussir et se classer à l'ordre, dit-il, eh bien, il est pris dans l'armée. Il sera en formation à l'école de formation des officiers à Kananga. À l'issue, il va sortir militaire avec les grades de sous-lieutenant. Les résultats sortent avant le mois d'août. Parce que c'est au mois d'août qu'on commence les cours proprement dites à l'EFO.
Autre nouvelle, toujours Nord Kivu, l'association des exportateurs du café cacao dit constater la baisse de l'exportation du café et du cacao ces 5 derniers mois par rapport à l'année passée. Elle regroupe 25 entreprises œuvrant en Nord Kivu et en Ituri. Et réfléchissant ce week-end à Butembo autour de l'état des lieux de l'exportation de ces deux produits dans la région, le membre de cette association justifie cette situation par l'insécurité, la fraude et la contrebande. D'après Maître Serge Kouiratoué, directeur de cette association, la quantité exportée depuis le début de l'année en cours est en dessous de la moitié de la même période de l'année passée. Il invite le gouvernement congolais à prendre des mesures conservatoires afin de permettre le climat des affaires dans la région. Maître Serge Kouiratoué est au micro de Florida Cambre.
L'année passée, on a aussi exporté officiellement 10 000 tonnes de café et 49 000 tonnes de cacao. Nous n'avons pas encore reçu les statistiques de ce mois pour totaliser tout le premier semestre, mais au moins avec les 5 premiers mois, on est vers 4 000 tonnes pour le café et 22 000 tonnes pour le cacao. Avec les sécurités, nous avons connu plusieurs cas d'incendie, de dépôts et de cargaisons. À terme d'estimation, parce qu'il y avait déjà des quantités qui étaient encore au niveau de producteurs, et on peut parler de 1500 tonnes. Et au niveau des dépôts, il y avait quelques dépôts qui étaient incendiés. Et malheureusement, il y avait aussi de l'argent dans ces dépôts-là qui peuvent aller autour de 2500 tonnes. Les incendies, nous avons surtout dans les territoires de Njugu, d'Irumu, de Mambasa. Il y a également dans les territoires de Beni. Quant à notre gouvernement, nous réitérons notre demande de voir cette question trouver une solution et que nous puissions avoir un climat apaisé.
Et puis, les enseignants du territoire de Malembakulu dans la province du Haut-Lomami menacent d'aller en grève. Cette situation intervient à quelques jours de la fin de l'année scolaire. La société civile locale interpelle les autorités à ce sujet car les élèves et les parents risquent de tout rater. On écoute Claude Kiasangolo, président de la société civile Force Vive de Malembakulu, joint par Jean Gando.
Après 3 mois d'impayement des fonctionnaires de l'État du territoire de Malembakulu, soit les mois d'avril, mois de mai et de juin, les enseignants payés par les systèmes PPL mobile, ce sont ces enseignants qui touchent leur salaire. Mais tous les enseignants qui sont payés sur listing n'ont jamais touché leur salaire des 3 mois. Et c'est ainsi que les enseignants se sont réunis pour décider d'aller en grève s'ils ne touchent pas leur salaire avant les dates fixées pour la passation des tests de TENA-ZOSP, les tests de TENA-FEP et les examens d'État. Et nous vous informons que pour la dernière paye, les enseignants de Malembakulu se sont vus chacun retrancher dans son salaire 4750 qui ne savaient pas pourquoi le salaire a été retranché. Nous craignons que si les dates fixées pour les examens d'État arrivent sans toutefois que les enseignants ne soient payés, il y aura boycottage des épreuves selon le dire des enseignants. Et c'est pourquoi la société civile demande à toutes les autorités tant provinciales que nationales de s'ingérer pour trouver une solution satisfaisante de la part des enseignants.
Cette information est confirmée par le sous-préfet de Malembakulu qui précise qu'il a déjà reçu le mémorandum de ses enseignants qui décide de déclencher le mouvement de grève dès ce lundi. Toutefois, il compte prendre langue avec leurs délégués pour essayer de désamorcer la crise. Au Congo central, le nouveau gouvernement formé par le gouverneur Guy Bandou Ndungidi ne prend pas en compte le ministère de l'Éducation. La synergie des syndicats des enseignants s'est dite mécontente que ce portefeuille stratégique ait été oublié, car l'éducation est importante pour l'avenir de la nation et de la province. Simon Siloulou, porte-parole de la synergie et des syndicats des enseignants du Congo central, demande au nouveau chef de l'exécutif provincial de prendre en compte le ministère de l'Éducation, puisque légalement, l'enseignement primaire, secondaire et professionnel est à compétence exclusive de la province. On l'écoute au micro de Nana Plurichimambo.
La synergie des syndicats des enseignants du Congo central a constaté sur du gouvernement qui devra désormais conduire notre chère province. Ce gouvernement a omis le ministère de l'Éducation. Nous leur demandons de réintégrer le ministère de l'Éducation parce que l'article 204 alinéa 13 confère l'enseignement primaire, secondaire scolaires et professionnels à compétence exclusive de la province. Également, l'enseignement, c'est le cheval de bataille du quinquennat du président de la République. Donc nous ne voyons aucune raison que ces ministères très importants pour l'avenir de la nation et de la province ne soient pas repris parmi les ministères qui vont désormais devoir conduire la province. Et d'ailleurs, la situation de l'enseignement à province par rapport à plusieurs décennies continue à connaître un recul. Quoi de plus normal de ne pas inscrire ces ministères comme tels?
Actualité internationale.
Bamako met les bouchées doubles pour obtenir la levée des sanctions au sommet d'Accra. Le sommet des chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et celui de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, se tiennent dimanche 3 juillet prochain à Accra, la capitale ghanéenne. Les dirigeants vont essentiellement se pencher sur la situation au Burkina Faso, en Guinée et au Mali. Après avoir reçu le médiateur de la CEDEAO pour le Mali, Bamako prend dès ce lundi 27 juin d'autres initiatives. Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, reçoit Bamako au grand complet le corps diplomatique accrédité au Mali. L'objectif est notamment de rassurer les diplomates étrangers sur plusieurs points. Le Mali n'entend pas s'isoler de ses partenaires de la sous-région. Et l'un des objectifs des autorités maliennes est d'aboutir à une solution avec les institutions sous-régionales pour la levée des sanctions économiques et financières qui frappent leur pays.
L'invité.
Le 24 juin dernier, cela faisait 10 ans jour pour jour que la réserve de faune de Poulo était attaquée par des miliciens Mai Mai du feu chef milicien Morgan, attaque qui avait coûté la vie à 15 okapis. Depuis, aucune de cette espèce rare qu'on ne trouve qu'en RDC n'a plus été capturée. À ce jour, quel est l'état des lieux de ce patrimoine mondial? Quels sont les défis auxquels fait face cette réserve? Pour en parler, nous recevons Bercé Samfoissa, responsable du projet de conservation de l'okapi. Il s'entretient avec Marcel Kizabiamo.
Monsieur Bercé Samfoissa, bonjour.
Bonjour Martial.
10 ans après l'attaque de la réserve des faunes à Okapi par des combattants Mai Mai, quel est l'état de lieu de ces patrimoines mondiaux?
La RFO poursuit toujours ses objectifs de conservation pour assurer la pérennité de la biodiversité ainsi que ses espaces. Et cela avec l'implication de toutes les parties prenantes, c'est-à-dire la communauté locale, les autorités politico-administratives et sous l'équipe dirigeante du partenaire gestionnaire, la Wildlife Conservation Society, mais aussi avec l'apport non négligeable de Wildlife Conservation Global, là où je suis le responsable des programmes.
À combien peut-on estimer le nombre des okapis qui vivent en état sauvage dans cette réserve?
Et donc, à ce jour, il est difficile d'estimer le nombre d'okapis à l'état sauvage. Vous savez, cela requiert une intervention des inventaires scientifiques pour aboutir à estimer évidemment les nombres. Et chez nous, dans la RFO, ces inventaires se font de façon quinquennale. Donc, d'ici là, nous allons encore procéder à ces inventaires là-bas pour pouvoir dégager les nombres ou soit les chiffres approximatifs.
Pourquoi, depuis cette attaque le 24 juin 2012, il n'y a plus eu de nouveaux okapis capturés pour être hébergés dans votre station?
À ce jour, il n'y a pas les okapis dans les enclos, car vous savez, les 14 okapis qui étaient en captivité ont été sauvagement abattus par le feu chef milicien Paul Sadal, alias Morgan, le 24 juin 2012. Et depuis lors, la RFO n'a plus procédé à une nouvelle campagne de capture. Néanmoins, les discussions sont en cours afin de procéder à cette nouvelle campagne de capture. Mais aussi, il nous faut de façon primordiale une garantie sécuritaire. Quand il y a la paix, il y a une stabilité, c'est là où nous pouvons songer au développement, c'est là où nous pouvons songer à la relance même de l'écotourisme, d'où le retour des okapis dans les enclos afin d'offrir l'opportunité au peuple congolais mais aussi aux visiteurs étrangers afin d'arriver dans notre pays et beaucoup plus à Ipoulou pour pouvoir visiter de façon physique cette espèce endémique. Mais donc à ce jour, la RFO fait face à beaucoup de défis, mais des menace, dont l'exploitation illégale des minerais qui détruit d'ailleurs l'habitat spécifique des Lokapi. Nous avons aussi les braconnages armés pour des espèces fauniques, pour la viande des brousses, etc. Mais aussi la présence de certains groupes armés dans la réserve. Il y a aussi l'explosion démographique et ou l'immigration, si je dois les dire ainsi. Mais nous manageons beaucoup d'efforts pour surmonter cela à travers nos différents programmes d'action, hein, notamment à travers notre programme d'orientation stratégique, le programme de protection avec les patrouilles des éco-gardes sur le terrain pour pouvoir décourager tout ce qui est activité illégale sous toutes ses formes. Hein. Nous avons notre programme de conservation communautaire, le programme de l'information, éducation environnementale, sensibilisation et communication, pour ne citer que cela. Tout ça, ce sont les efforts que nous sommes en train de militer pour pouvoir répondre aux menaces ou défis à laquelle la RFO fait face.
Si la réserve est menacée par la migration démographique, n'est-ce pas aussi l'une des conséquences de vos relations parfois tendues avec la communauté locale?
Par rapport à la collaboration avec les communautés locales, nous avons une parfaite collaboration avec nos premiers partenaires qui sont les communautés locales résidentes de la RFO. Certes, il y a des choses à améliorer dans cet angle de collaboration pour une harmonie permanente entre les parties. Je dirais que les discussions sont en cours dès qu'il plaira à la hiérarchie de l'ICSN avec ses partenaires, mais sur base des évaluations de l'état sécuritaire, des moyens disponibles et suffisants, tout cela nous permettra en fait de procéder à une nouvelle campagne de capture pour repeupler les zones.
Merci, cent fois ça, merci.
Je vous remercie.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.